Les enfants de Tchernobyl, une association alsacienne créée en 1993, qui a pour but de venir en aide aux populations victimes de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. En particulier aux enfants d'Ukraine, du Bélarus et de Russie. Yves Lenoir, scientifique engagé et responsable de l'association, répond aux questions de Pascal Marcadji et nous rappelle les ravages que peuvent créer les radiations sur la santé des enfants.
Il y a pas mal d'associations qui se préoccupent des séquelles de Tchernobyl sur les enfants, parce que ce sont les enfants qui souffrent le plus dans les régions contaminées, vu que leur organisme est en plein développement, donc très actif. Et ce qui a été montré dans les années 90, avant, on observait que les enfants étaient malades et des tas de maladies bizarres qui n'existaient pas avant. Mais on ne savait pas pourquoi vraiment. Il y avait une relation évidente avec Tchernobyl, puisqu'avant tout allait bien. En gros, 15% des enfants malades, comme dans n'importe quelle population, les rhumes, les bronchites, tout ce que vous voulez. Et là, on passait à 80%, des bronchites qui guérissent pas, la moindre infection, qu'elle soit nasale, les oreilles et tout, qui guérissent pas, des cataractes, des cardiopathies, des diabètes, des maladies endocriniennes, une cohorte de maladies qui sont des maladies de vieux. Comme s'il y avait un vieillissement, et des morts, bien entendu. Il y a des gens qui sont morts de ces maladies de vieux. Mourir à 12 ans, 14 ans, du fait d'avoir son organisme comme ça bousillé. Et puis des maladies cérébrales qui ne sont pas vraiment maladies au sens où ils seraient fous. Non, c'est une apathie. C'est-à-dire que le cerveau, qui travaille beaucoup chez les enfants, puisqu'ils forment leurs connexions internes et par l'apprentissage, leur cerveau travaille beaucoup, donc le césium vient, perturbe le fonctionnement du cerveau. Et ce que m'ont dit des femmes dans le sud de la Russie en 90, nous ont dit « nos enfants ne peuvent plus travailler en classe, ils ne jouent plus, ils sont tout le temps abattus ». En fait, ils ont le cerveau fatigué par l'irradiation.
Pour aller chercher l'information sur place, c'est vous à chaque fois qui avez fait la démarche d'aller voir ?
Oui. C'est-à-dire qu'après Tchernobyl, j'ai été contacté en 88 pour aller participer à un premier voyage. C'était le premier voyage d'études fait par des journalistes français. Et ils voulaient avoir ma présence parce qu'avec une journaliste, on avait écrit un techno-thriller qui s'appelait Tchernobyl sur scène, qui avait eu un certain succès. Comme j'y connaissais quelque chose, ils se sont dit « bon, on va demander à Lenoir de venir ». Moi, je suis allé voir mes copains au CEA, je leur ai dit « filez-moi un radiomètre que je vois aux mains où je mets les pieds, qu'on ait des mesures ». Bon. Je suis allé voir les gens de la CRIRAD, ils m'ont dit comment faire un petit matériel pour prendre des carottes de sol, pour leur amener de quoi faire des analyses. Et au retour, on a créé avec un ami qui était avec moi là-bas, qui était au ministère de l'Agriculture, et puis avec une femme médecin qui était membre de la CRIRAD, on a créé un petit groupe pour aller faire des missions semi-clandestines sur le terrain. Et c'est à cette occasion-là que dès 89 et 90, on a eu connaissance de la réalité sanitaire dans les régions contaminées.
On vous a laissé à peu près travailler ?
À l'époque, le KGB était pas la bride sur le coup, n'avait plus aucune capacité d'intervention. On faisait ce qu'on voulait, on avait des faux visas, enfin, vous voyez, des choses que maintenant, on ne peut même pas imaginer. Alors, pourquoi est-ce qu'on a pu travailler dans ces conditions-là ? C'est premièrement, parce qu'effectivement, bon, les autorités laissaient faire tout librement, et ensuite, parce qu'on avait des relations grâce à des amis qui analysaient la presse soviétique, qui avaient des rapports avec les scientifiques sur place, parce qu'il y avait beaucoup d'échanges. On savait exactement où est-ce qu'il y avait les problèmes les plus aigus. Parce qu'il y avait un énorme travail qui a été fait dès le début, moi, dès 88, j'ai vu ça sur le terrain, en discutant avec des scientifiques, qui avait été fait pour analyser les conséquences. Ce travail n'est absolument pas pris en compte par l'Agence internationale de l'énergie atomique, par l'OMS et tout ça. Non, cette connaissance, qui est une connaissance de terrain, sur les conséquences réelles d'un accident nucléaire grave, cette connaissance existe, mais elle n'est pas considérée. Et depuis, ils n'ont pas cessé. Que ce soit des études en biologie, en génétique, et tout ce qu'on peut en écologie, et tout ce qu'on peut imaginer. Et grâce à ce réseau de relations, on a pu monter des petites missions très courtes, quelques jours, mais on allait là où c'était important. On allait voir les médecins, on allait discuter avec les autorités, on allait mesurer sur le terrain, on allait prendre des échantillons, etc., qu'on ramenait pour analyse ici. Et c'est à cette occasion-là qu'on s'est aperçu que vraiment ça allait très mal et que ça allait en empirant. Les courbes que nous montraient les médecins, de leurs statistiques, montraient une croissance exponentielle d'un certain nombre de maux. Et pour ce qui concerne les enfants qui n'arrivaient pas à guérir des maladies infectieuses, il nous dit, pour nous, c'est le sida des radiations. C'est-à-dire que le système immunitaire, qui est un système très actif, se trouvait tellement endommagé que la moindre infection ne guérissait pas. Et puis plus tard, grâce à Bandajewski, à son équipe de Gomel, qui a étudié, et à sa femme, qui avait repéré qu'il y avait beaucoup de cardiopathie chez les enfants, alors il a regardé les choses en détail, et là il a été stupéfait, parce que tout ce qu'il avait découvert remettait en cause le dogme. C'est que le dogme, c'était le césium se répartit uniformément dans l'organisme. Donc c'est une dose qui est pas très dommageable, parce que les muscles, uniformément, ça veut dire dans les muscles, dans les graisses, ça ne peut pas se cancériser. Donc, pas de problème. ce qu'il a trouvé, c'est que le césium, il n'était pas du tout réparti uniformément, et que là où il y en avait beaucoup, il y avait des maladies. Alors il a été mis en prison, parce que, alors là encore, il faut comprendre les raisons pour lesquelles le gouvernement de Biélorussie, parce qu'à l'époque, ça y est, la Biélorussie était indépendante, l'a mis en prison, c'est que durant les premières années qui ont suivi l'accident, 5-6 premières années, le gouvernement biélorusse, comme le gouvernement ukrainien, a consacré environ 25 à 30% de son budget pour faire face aux conséquences de Tchernobyl. Pendant ce temps-là, l'économie s'est écroulée. Simultanément, vous aviez tout le lobby nucléaire qui disait « Mais c'est pas vrai tout ça, c'est la radiophobie. Les gens sont malades. » Mais en fait, ils sont pas malades, simplement parce qu'ils ont peur. Arrêtez de distribuer de la pectine, arrêtez de faire des mesures, arrêtez d'évacuer les gens, ça sert à rien.
Et ça, c'est un lobby qui est quasiment international. Il y a une pensée du lobby qui est un petit peu unique.
Une pensée qui s'est forgée dans les années 50 à l'OMS et à l'agence de Vienne, et qui depuis a été reprise comme une doctrine religieuse dans toutes les agences pour l'énergie atomique de chaque pays, dans les agences de radioprotection et dans le secteur médical. Parce que les radiothérapeutes sont de très gros consommateurs des produits de l'énergie atomique sous forme d'isotopes, des choses comme cela, de haute technologie, et ils ont intérêt à défendre, pour des raisons qui sont aussi bien idéologiques que pour les moyens que leur offre cette énergie, ils ont intérêt à défendre la promotion de cette énergie. Et ça, les gens n'en sont pas conscients. Ils pensent que les médecins ne pensent qu'à leur santé, mais c'est pas vrai. Le lobby des radiothérapeutes ne pense qu'à une seule chose, c'est d'utiliser toujours plus de radioéléments, toujours plus de techniques nucléaires. Les progrès, entre guillemets, que peut fournir l'industrie atomique et la recherche atomique, eh bien, ils en sont friands.
Les populations sur place, on les a laissées sur place, on ne les a pas évacuées?
On a évacué d'abord ceux qui étaient dans la fameuse zone interdite, qui d'ailleurs au début était un cercle, puis après on a fait des mesures, on s'est rendu compte que ça n'avait rien à voir avec un cercle, parce que ça dépendait des retombées, et c'était très hétérogène. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait eu des points très contaminés par le fait que quand vous avez un nuage chargé en radioéléments, il est ionisé, et ça active les noyaux orageux. Et donc c'est là où il y a le plus de radioéléments, et la pluie va déposer sur le sol cette masse de radioéléments. Et donc vous avez une contamination qu'on a appelée en tache de léopard, qui s'est produite tout de suite et qui était connue. Moi j'ai des cartes que j'ai eues à Moscou en 90, qui sont des cartes qui datent de mai et juin 86, où on voit déjà ces taches. Et c'est normal, les autorités soviétiques avaient tout un système prévu d'avance en cas de guerre nucléaire. Donc ils avaient toutes les équipes avec le matériel pour aller mesurer la radioactivité. Donc après Tchernobyl, ils ont mis ces équipes spécialisées en branle, ils sont allés sur le terrain, et ils ont cartographié le terrain. En Bélarus, en Ukraine, on a encore évacué des gens. Au total, les chiffres sont un peu incohérents, donc c'est difficile de pouvoir dire un chiffre précis. Mais en gros, il semblerait qu'en Ukraine, on a évacué 160 000 personnes, et sans doute autant en Bélarus. Chose curieuse, la somme des deux fait 200 000. Allez comprendre. Bon, peu importe. Donc on a évacué beaucoup de monde, mais pas assez. Les Ukrainiens estiment qu'il y a 3 millions de personnes qui vivent en gros dans les zones contaminées et qui nécessitent une surveillance. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de malades dans ces régions-là. Au Bélarus, où on a voulu arrêter de dépenser beaucoup d'argent et où c'est devenu, avec l'affaire Bandajevski, une affaire d'État, puisqu'il y a eu un procès, etc., on a tendance à sous-estimer le nombre et on estime qu'il y en a environ 2 millions, dont 500, 600 000 enfants.
Restez à l'écoute de Radio Éthique pour la suite et fin de cette interview d'Yves Lenoir, scientifique engagé et président de l'association Les Enfants de Tchernobyl.